Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à partir de l'évangile de dimanche prochain, c'est-à-dire l'extrait de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16 qui suivent immédiatement le récit des béatitudes que nous avons entendu la semaine dernière. Nous serons tout particulièrement attentifs à saisir ce que signifie pour nous être la lumière du monde. Mais écoutons l'évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Fin de la lecture. Avant de commenter la phrase « Vous êtes la lumière du monde », il est bon de faire mémoire de la lumière dans l'Ancien Testament. Où la voit-on apparaître? En fait, dès le récit de la création. C'est le premier acte créateur de Dieu. Il sépare la lumière des ténèbres. La création de la lumière apparaît donc comme un acte fondamental. Le don de la lumière apparaît donc comme un acte essentiel à la disposition du monde, à la beauté du monde, à l'ordonnancement du monde. Du coup, prendre cette image de la lumière et déclarer « Vous êtes la lumière du monde » n'apparaît pas comme quelque chose d'anodin. « Vous êtes la lumière du monde » renvoie à quelque chose de fondamental, quelque chose qui va être le socle à partir duquel tout doit pouvoir se déployer. « Vous êtes la lumière du monde » fait de ceux à qui l'on s'adresse un stade de fondation, un stade qui va permettre un déploiement, un développement de vie. Dieu fait de ceux à qui il s'adresse comme lumière du monde une étape de déploiement de vie fondamentale pour toute la création. Ce que vous êtes, ce que vous serez, sera aussi fondamental pour le monde que ce premier don de la lumière qui fut fait au commencement de la création. Il faut percevoir cet enjeu, cette solennité. Par ailleurs, au terme de l'histoire, on souligne qu'il n'y aura plus besoin dans la Jérusalem céleste de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu sera sa propre illumination. L'agneau lui tiendra lieu de flambeau. Si vous pouvez aller regarder ça au chapitre 21 de l'Apocalypse, le verset 23. Au terme de l'histoire, Dieu sera lui-même la lumière de la Jérusalem céleste. Nous voyons donc que la lumière ne se réduit pas à simplement une espèce de briquet pour s'éclairer dans le noir, à une lumière pour déchiffrer une inscription. La lumière représente Dieu lui-même, la vie de Dieu, l'éclat de Dieu. Repensons à ce que nous disons dans le credo de Nicée-Constantinople en parlant du Fils. Il est lumière née de la lumière. Le Fils du Père est lumière lui-même né du Père qui est lumière. Ainsi, parler de la lumière évoque à la fois un don fondamental au commencement, mais aussi l'identité de Dieu lui-même au terme de l'histoire. Il est la lumière qui illuminera tous les bienheureux du royaume des cieux. Entre le don de la lumière à l'origine et Dieu qui est lumière des bienheureux au terme de l'histoire, il y a cet envoi, cette vocation, cet appel « Vous êtes la lumière du monde ». Entre le commencement et l'accomplissement de l'histoire, mission est donnée à l'homme d'être lumière pour le monde, lumière du monde. Cela avait été évoqué déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe. C'était au chapitre 42, le verset 6. « Le serviteur du Seigneur, j'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. ou un peu plus loin, toujours en parlant du serviteur, en Isaïe 49, verset 6, « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. » Le serviteur du Seigneur est donc lumière des nations. Souvenons-nous d'ailleurs que le serviteur du Seigneur est à la fois une figure individuelle, désignant le Messie, mais aussi une figure collective, désignant le peuple de Dieu. En disant « Vous êtes la lumière du monde », le Christ accomplit cette prophétie d'Isaïe en faisant du peuple nouveau qu'il constitue cette lumière pour le monde, cette lumière pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et cette lumière a pour enjeu la glorification de Dieu. Cette lumière qui doit être donnée aux hommes a pour but la glorification de Dieu par les hommes. Qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement, que les hommes doivent donner un témoignage. Deuxièmement, que ce témoignage doit permettre de découvrir la présence de Dieu, doit permettre de découvrir l'existence de Dieu, sa présence auprès des hommes, sa bienveillance auprès des hommes. Rappelons-nous d'une chose, glorifier Dieu, ce n'est pas tant applaudir et pousser des cris, glorifier Dieu, c'est reconnaître sa présence et son action. Bien sûr, la reconnaissance de cette présence et de cette action peut entraîner une exultation. Alors, la question se pose, quel est le rayonnement de ceux qui sont appelés lumière du monde ? De quelle façon rayonnent-ils ? Et l'Évangile dit, c'est par vos bonnes œuvres que les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, les bonnes œuvres, les kala erga, pour le dire en grec, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Dit autrement, en voyant ce que vous faites, en voyant la façon dont vous vivez, les hommes se diront « il n'est pas possible que Dieu n'existe pas ». Ta façon d'agir, ta façon de vivre est un témoignage de l'existence, de la présence, de l'action de Dieu. Nous percevons donc une chose, à l'origine, Dieu fait le don de sa lumière. Au terme, Dieu sera la lumière qui éclaire toute chose et tout homme, mais entre les deux, Dieu confie ce rayonnement à son peuple. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde qui rendra possible de découvrir cette présence et cette action de Dieu on pourrait dire caché, mais révélé par votre action. Dieu se cache pour que nous le manifestions d'une certaine manière, pour que nous ayons la grâce de le manifester. Les pères de l'Église ont souvent contemplé la lune qui nous donne de percevoir le rayonnement du soleil pendant la nuit. Alors que le soleil est caché à nos yeux, elle témoigne de sa présence et de son rayonnement en rayonnant elle-même. Pour une cellule paroissiale d'évangélisation, cet évangile prend une dimension toute particulière. Il est au fondement de l'action vis-à-vis de l'oïkos. Dans notre entourage, l'oïkos est le premier devant qui nous souhaitons rayonner de ses bonnes œuvres pour qu'il reconnaisse la présence de Dieu et le glorifie. Quand le Christ dit « une ville située sur une montagne ne peut être cachée », on pourrait dire « une cellule paroissiale d'évangélisation située sur une montagne ne peut être cachée ». Et qu'est-ce que c'est la montagne pour une cellule paroissiale d'évangélisation ? Eh bien, il y en a deux dans l'Évangile. C'est le Tabor d'une part, où il y a eu lieu la transfiguration, et le calvaire où le Christ a été crucifié. Le Tabor, c'est le lieu où le Christ révèle son identité divine. Le calvaire, c'est le lieu où le Christ vit cette fidélité de l'amour jusqu'au bout. Eh bien, cela définit l'action que nous avons vis-à-vis de l'oïkos, à la fois une œuvre de révélation où nous parlons, nous partageons de notre foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et c'est aussi le lieu où nous vivons cette charité à travers le don de nous-mêmes, où nous voulons le vivre jusqu'au bout. par l'attention, par le service, par le don de nous-mêmes. Lorsque le Christ dit que l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, afin qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, on pourrait dire dans une cellule paroissiale d'évangélisation, eh bien que on n'a pas reçu la flamme de l'Esprit-Saint simplement pour la conserver entre nous, un peu de façon cachée, mais justement pour qu'elle brille à tous ceux qui sont dans notre entourage, qu'elle puisse toucher ceux qui sont dans notre entourage. Et comment est-ce qu'elle touche ceux qui sont dans l'entourage? Parce qu'on les appelle, parce qu'on les invite. La lumière ne peut pas s'empêcher de rayonner. Eh bien, de la même façon, la lumière pour une cellule, c'est de ne pas pouvoir s'empêcher d'inviter. Quand nous regardons un instant, pourquoi sommes-nous là dans cette cellule? Pour la plupart, parce que quelqu'un nous y a invités, parce qu'un jour quelqu'un nous y a invités. Et donc nous sommes appelés à partager ce don, à perpétuer cette culture de l'appel, à rayonner d'une certaine manière, à continuer de rayonner, puisque c'est ce que fait la lumière, et de proposer à d'autres, d'inviter d'autres à reconnaître, à découvrir le Seigneur présent et agissant. Et si parfois nous nous sentons un peu pauvres, un peu faibles pour pouvoir oser appeler, inviter, souvenons-nous que la lumière du monde, c'est aussi le Christ. Et lui, il est cette lumière véritable, il est cette lumière parfaite, cette lumière accomplie jusque dans notre humanité. Et par le baptême, nous avons été unis à lui. Il y a des fois où on appelle non pas tant parce que on a plein de connaissances, plein de savoir, une foi extrêmement éprouvée, mais parce qu'on a confiance qu'on est uni au Christ par notre baptême, et que l'Esprit peut vouloir agir à travers nous, à travers notre pauvreté. Mais peut-être que moi je n'ai pas très confiance en ma capacité, mais toi Seigneur, je sais que tu peux tout, que tu peux même toucher un cœur en passant à travers moi. Alors j'ose appeler, alors j'ose inviter. Parce que toi, tu es la vraie lumière, je pense que tu peux briller même à travers moi. Chers amis des cellules, au terme de cet enseignement, retenons peut-être trois choses en particulier. La première, si nous sommes appelés à être lumière du monde, nous sommes appelés à rendre donc manifeste, à travers notre vie, la présence et l'action même de Dieu. Première chose. Deuxième chose, que nous sommes appelés à rayonner comme la lumière qui ne peut pas s'empêcher de rayonner. Et donc nous sommes appelés à oser appeler autour de nous, à inviter largement. Et la troisième, avoir cette confiance que le Christ, lui qui est la lumière parfaite, la lumière qui a brillé dans la faiblesse, dans la fragilité de notre humanité, eh bien lui veut et peut briller même à travers nous. Même à travers moi. Je vous souhaite de beaux échanges.